Bonjour chers auditeurs, je suis aujourd'hui avec Martin Dufil qui est le responsable de la pastorale des jeunes. Bonjour Martin,
Bonjour.
est-ce qu'en priorité vous pourrez déjà vous présenter s'il vous plaît?
Je suis Martin Dufil, je viens du diocèse de Toulouse. Je viens d'arriver dans le diocèse d'Eyrédaxe en septembre pour le poste de responsable de la pastorale des jeunes du diocèse. Je suis très content d'être arrivé ici dans un environnement rural et de caractère. Je suis content d'être là pour la mission que m'a confiée l'évêque, donc de m'occuper de la pastorale des jeunes. C'est-à-dire la pastorale des jeunes, c'est un peu s'occuper des activités pour les jeunes régulières dans le temps et bien réparties dans l'espace des Landes. Et c'est aussi s'occuper des événements ponctuels sur des lieux précis tout au long de l'année. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours?
Alors, j'ai un parcours. Alors, d'un point de vue professionnel, j'ai un parcours qui est très, très erratique. Mais j'ai vu plein de choses. Je suis même allé à l'étranger. Alors, j'ai fait des études d'ingénieur, donc dans les sciences, d'autres études un petit peu pour voir autre chose, quelque chose dans la gestion des services publics. J'ai jamais travaillé comme ingénieur, mais j'ai fait tous mes stages. Je connais bien ce monde-là. En m'arrêtant de chercher, j'ai commencé à travailler comme prof de maths à la Fondation d'Auteuil, et j'ai fait en fait la plus grande partie de ma carrière, je l'ai fait comme enseignant de mathématiques. Donc en collège et lycée, et j'ai fait d'abord le privé à la Fondation d'Auteuil, et puis ensuite le public. Je suis aussi parti en Indonésie pendant un an avec les missions étrangères de Paris, donc c'était du volontariat. Je m'occupais de jeunes encore. En revenant en France, j'ai repris l'enseignement. J'ai même fait de l'enseignement du français encore en Afrique pendant 3 mois, une petite expérience. Donc j'ai toujours eu à cœur de transmettre. Et des mathématiques au français jusqu'à aujourd'hui, la foi, j'ai toujours eu à cœur de transmettre de quelque chose de plus en plus fondamental, de plus en plus important pour moi. Dans toute ma vie, enfin dans tout mon parcours, j'ai jamais cessé d'entretenir mon lien avec l'Église, enfin pour développer ma foi. Et j'ai toujours eu à cœur donc, de m'intégrer dans les opérations de pastorale locale, là où je me situais. Donc quand j'étais étudiant, c'était avec le réseau des chrétiens, grandes écoles. Quand j'étais à Paris, c'était avec les jésuites, ce qu'ils faisaient pour les jeunes. J'étais impliqué là-dedans. Ensuite, en Indonésie, bien évidemment, j'étais parti avec les missions étrangères de Paris. Quand je suis revenu, j'ai essayé de faire des choses dans le diocèse de Pamiers, en Ariège. Quand je suis revenu à Toulouse l'année dernière, je me suis inséré dans les réseaux de chrétiens, enfin pour développer ma vie de prière et ma vie chrétienne, même mes opérations de charité. Et donc j'ai toujours été dedans, quoi. J'ai toujours eu à cœur d'apporter ma pierre à l'édifice.
Comment en es-tu arrivé à cette charge?
Quand l'année dernière, quand je suis revenu d'Afrique et que j'ai arrêté de me projeter à l'extérieur, je voulais m'ancrer. Ce que le Seigneur m'apprenait dans l'expérience précédente à Djibouti, c'est que en fait ma vie n'était pas si loin. Je devais m'ancrer localement. Et en France, ça me va très bien. C'est un pays que j'adore. Et en particulier dans le sud-ouest. Mais c'était aussi voir qu'est-ce qui m'avait animé toute ma vie au plus profond. Et j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé l'Église. Ça vient en partie de ma famille. Mon père est diacre. Donc, il y a cela. Et en fait, l'année dernière, j'ai suivi des formations, l'Église en croissance, formé des disciples missionnaires, et encore la semaine dernière, j'en reviens à peine, l'évangélisation intégrale. Donc, toujours par le même formateur, un prêtre, qui est tout à fait au fait théologique et pastoral de la nouvelle évangélisation. Et donc, la mission première de l'Église, c'est l'annonce. Et donc, je me suis toujours senti en phase avec ces sujets. Et c'est l'année dernière que je me suis décidé à travailler en pastorale scolaire. À l'origine, je pensais à ça parce que c'est là qu'il y a le plus de postes, puisque dans chaque établissement scolaire privé, catholique, il y a un travail à faire là-dedans. Et en fait, j'ai trouvé cette opportunité à Dax pour faire de la coordination de l'ensemble de la pastorale des jeunes. Et c'est ça que j'ai préféré par-dessus tout, quoi.
Est-ce que tu peux préciser davantage en quoi consiste la charge que tu as?
Alors oui, je l'ai un peu dit en résumé. Donc il y a à la fois quelque chose de régulier et diffus dans le temps et l'espace, et il y a quelque chose de plus concentré dans le temps et l'espace, c'est-à-dire les événements, quoi, qui ont lieu sur quelque part et dans un intervalle très, très réduit. Et donc dans le temps et l'espace, c'est connaître tous les animateurs en pastorale sur le territoire et les soutenir, voir leurs besoins, leur dire qu'on est là pour eux et puis voir comment que ça se passe bien et s'il y a des remplacements à faire, s'assurer que le remplacement se fasse. Donc moi je viens d'arriver, mais donc je découvre tout ce territoire, mais je vois bien que à des endroits il faut renforcer les équipes, des endroits il faut remplacer. Et donc ça c'est plutôt dans la régularité, et penser déjà éventuellement à diffuser ce que j'ai appris sur l'Église en croissance, sur cette dynamique d'une Église vivante comme un corps vivant, c'est ce qu'on est, et donc diffuser cette énergie pour que les animateurs en pastorale se sentent partie intégrante d'un ensemble plus grand et profitant à l'ensemble, c'est-à-dire que chacun a sa place, tant qu'il est volontaire, et bien il en fait profiter le corps entier. Et d'un autre côté, donc ça c'est dans la régularité et sur tout le territoire. Et puis j'ai la chance de profiter du bureau. Je suis arrivé, le bureau de la pastorale est composé de bénévoles, une grande majorité de jeunes qui s'occupent d'organiser et de gérer les événements organisés pour chaque tranche d'âge. Donc les 6e, 5e, les confirmants, les collégiens, les lycéens, etc. Il y a plein d'événements tout au long de l'année, donc qui sont particuliers et qui sont bien précis. Et donc le bureau m'aide beaucoup pour ça. Enfin, eux, si j'étais pas là, ça se ferait quand même. Et donc moi, j'arrive pour un peu aider. Et donc ces événements doivent toucher tous les gens du diocèse.
C'est public et privé, cette relation avec les aumôniers et les animateurs pastoraux.
Oui, c'est-à-dire que mon service est un service de travail, est un service de coordination. Et donc, je ne suis pas superviseur, je suis coordinateur, même si je suis responsable de la pastorale des jeunes. Donc, en fait, c'est dans le privé, dans l'enseignement catholique, l'avantage est que il y a un environnement entier qui est dédié à la pastorale. La première mission de l'enseignement catholique, c'est l'évangélisation. C'est même pas l'éducation ni l'instruction, c'est l'évangélisation. Et donc, l'ensemble du projet éducatif catholique, c'est évangéliser. Et donc, en fait, ils ont une certaine autonomie. Et de toute façon, leur mission leur vient du directeur de l'enseignement catholique et chaque directeur aussi a cette mission-là. Donc, ça vient directement de l'évêque. Et moi, tous ces acteurs qui agissent très bien, qui sont très motivés, qui ont l'environnement idéal pour déployer leur pastorale, ben, je suis là pour les aider. Ils n'ont pas trop besoin de moi dans la régularité, puisque souvent c'est des salariés. On travaille ensemble, surtout pour les événements ponctuels. Quand c'est les confirmants de tout, du public ou du privé viennent, quand c'est d'autres événements, tout le monde est invité. Et pour le public, alors souvent, la plupart des aumôneries, c'est des aumôneries paroissiales, et quelquefois, c'est des aumôneries d'établissement. Mais bon, c'est toujours porté par une paroisse quand même. Donc en fait, voilà, il y a deux grandes branches dans les aumôneries de l'enseignement. Il y a celle de l'enseignement public et il y a celle de l'enseignement privé. Et dans l'enseignement privé catholique, on appelle même ça de la pastorale scolaire privée. Bon, il y a d'autres choses encore. Il y a proposé tout ça au mouvement scout, à ce qui existait autrefois, le MEJ, mais ça n'existe plus. Il y a aussi la pastorale étudiante, il y a la pastorale des jeunes pros, et il y a aussi l'hospitalité landaise qui draine beaucoup de jeunes chaque été. L'hospitalité landaise a l'avantage d'attirer parce que l'action, impliquer les jeunes, ça attire toujours les jeunes. Rendre la charité concrète, c'est aussi très utile et les gens s'y sentent bien, quoi. C'est moins de blabla, c'est plus d'action. Voilà.
Ils sont demandeurs.
Alors oui, l'hospitalité landaise est très demandeuse et les jeunes sont très heureux de répondre à la demande.
Vous avez des exemples d'actions concrètes par rapport à ce qu'on vient de dire? c'est l'hospitalité landaise qui te demande.
Non, l'hospitalité landaise est autonome, un peu comme beaucoup des mouvements chrétiens. Moi, ce que je peux faire, c'est je leur relaie les événements que nous avons, parce qu'ils ont des contacts avec des jeunes que nous n'avons pas. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui ne sont même pas beaucoup croyants, mais qui vont à l'hospitalité landaise. Et inversement, nous, auprès de nous, quand on fait des grands événements diocésains, on peut communiquer sur l'hospitalité landaise afin d'orienter les jeunes qui ont envie d'aller là-bas.
Est-ce qu'il peut arriver que, justement, ces jeunes qui sont... on va parler encore de l'hospitalité landaise, viennent, fût-ce par curiosité, dans des rassemblements où c'est très, très peu probable?
Pour l'instant, je ne sais pas trop. J'aimerais bien que des jeunes viennent par curiosité. J'aimerais bien que l'Église universelle soit vraiment ouverte sur... c'est-à-dire que tous les degrés de cheminement soient déjà intégrés à l'idée d'Église. Je pense que c'est une faible proportion. De toute façon, pour les jeunes jusqu'au lycée, tant qu'on n'a pas 18 ans, la pastorale pour les jeunes est aussi une éducation. Et c'est-à-dire que, pour le coup, l'évangélisation et l'éducation est un peu mélangée pour les jeunes âges. Pour le coup, tant que c'est une éducation, il est normal que ça soit une obligation. Donc, d'une certaine manière, c'est parce que il est normal d'obliger ses enfants à prendre le respect. Et ça, c'est tout le monde peut l'entendre. Et pareil pour l'évangélisation. C'est-à-dire que des parents ont un devoir de transmettre la foi et les enfants ont un devoir d'y participer d'une certaine manière. Enfin, dans une certaine mesure, faut l'entendre comme ça, bien sûr. Et on le sait qu'en réalité, la foi, dans son acceptation la plus pure, c'est la liberté. Donc, voilà, c'est jongler avec ça. Chacun, comme il le veut, comme il le peut, place le curseur où il veut et...
Beaucoup plus que par conviction, ma foi, on fait avec.
Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Il ne faudra pas peut-être même le mettre dedans. Mais...
Est-ce que tu peux me dire un petit peu, dans les cadres tranches d'âge, ce qu'ils font?
Alors, les 6e, 5e sont plutôt assez nombreux. C'est le plus gros contingent, bien sûr. Parce qu'ils sont encore petits, ils sont encore dociles, tout simplement. Leur construction, leur identité n'est pas encore complètement amorcée. C'est-à-dire que quand on passe de l'enfance à l'âge adulte, comme on construit son identité, toutes les remises en question se font un peu après la 6e, 5e. La 6e, 5e, c'est que le début. Donc, il y a encore beaucoup de jeunes et les animatrices d'aumônerie, les animateurs d'aumônerie sont très très heureux de travailler avec ça. Quand on est en 4e, ils sont encore présents parce que c'est le diplôme, ils veulent, entre guillemets. Ils veulent avoir la confirmation. Le problème, c'est que la confirmation, c'est la porte de sortie, alors que ça devrait être la porte d'entrée. Et donc, beaucoup de jeunes, comme ils sont toujours dans ce processus de construction de leur personnalité, de leur identité, ils remettent encore plus de choses en cause à ce moment-là, après la confirmation, et beaucoup quittent les aumôneries. Ça ne veut pas dire que on n'a pas semé quelque chose. Ça, c'est sûr, on a semé quelque chose. Parce que si ça était bien fait, ça touche forcément les cœurs. Donc, quand ils grandissent, ils gardent des choses, ils gardent des souvenirs. C'est comme l'amour de leurs parents. On a besoin de quitter ses parents, mais on se souvient de ce que nos parents nous ont donné pour nous aimer, pour nous faire grandir. Et ensuite, pour les lycéens, il y a des aumôneries. C'est vraiment là, pour le coup, on compte sur les... Ça compte bien, ça tombe bien d'ailleurs, ils ont fait leur confirmation, donc normalement ils sont adultes. Donc maintenant, on compte plus sur les bonnes volontés, ceux qui veulent participer. Et il y en a de moins en moins, il faut imaginer qu'il y en a de moins en moins. Les étudiants, on va relancer la pastorale étudiante en janvier. Enfin, elle avait eu cours l'année dernière jusqu'à l'été, puis ils attendaient la venue du nouveau responsable de la pastorale des jeunes pour relancer ça. Donc je suis là maintenant, et puis de septembre à décembre, il n'y a rien eu, mais en janvier, on va... Le 25 janvier, un samedi, on relance la pastorale étudiante, donc par une soirée à Dax, avec Monseigneur. Et donc, pour essayer de faire une pastorale étudiante qui soit itinérante dans les Landes, pour toucher les jeunes. Alors, les étudiants des Landes, les locaux, ceux qui sont ici, c'est des BTS. Ils n'ont pas grand-chose, puisqu'on ne sent pas le besoin.
Et la première année de médecine aussi à Dax.
Et la première, première année de médecine. Bon, après en médecine, ils doivent beaucoup travailler. C'est peut-être pas. Enfin, faudrait leur proposer quelque chose d'adapté. Et enfin, donc, et il y a d'autres, beaucoup d'étudiants qui partent. Ils reviennent que le week-end. Ils partent et ils reviennent le week-end. Donc, voilà. Ensuite, il y a les jeunes pros qui sont encore, entre guillemets, dans ma juridiction. C'est-à-dire. On n'a pas séparé les. Enfin, la pastorale des jeunes, elle va jusque-là parce que les jeunes pros, qui peuvent aller de 20 jusqu'à 35 ans, sont tous ceux qui s'engagent à peine dans la vie sociale de manière autonome, en travaillant. Et souvent, ils n'ont ni d'épouse, ni. Enfin, ils ne sont pas mariés, ni d'époux, ni d'épouse, ni d'enfants. Et donc, ils sont encore. Ils n'ont pas de foyer ecclésial. Élémentaire, celui de la famille. La famille est un foyer ecclésial élémentaire. Comme ils n'ont pas ça, il leur faut bien quelque chose. Ce qu'il leur faut, c'est un groupe de prière réduit. Dans une de mes formations, j'entendais l'église devient plus grande à mesure qu'elle devient plus petite. C'est-à-dire qu'on peut faire une grande église quand les chrétiens ont des relations proches le plus localement possible. Et donc ces jeunes pros sont en fait les ferments, les gens aussi qui sont bénévoles dans tous les événements qu'on fait pour les autres jeunes, comme les étudiants, les lycéens. On a l'avantage d'avoir, enfin je le vois dans mon bureau, c'est plein de jeunes de 20 à 30 ans qui sont bénévoles et qui donnent de leur temps pour les plus jeunes. Donc c'est un peu comme dans la pastorale des scouts, parce que les scouts, c'est leur grande force, c'est les aînés qui éduquent les plus jeunes. Donc il y a une très grande croissance, chaque individu croît énormément. Et donc un peu la même chose, quoi. Qu'on essaie de faire. Mais les plus gros effectifs, il faut se rappeler, c'est quand même dans les milieux éducatifs, de toute façon. J'ai beaucoup parlé des étudiants, mais là, il y en a moins. Quoi. Ouais. Et les jeunes pros, donc il y a un gros groupe à Mont-de-Marsan et un gros groupe à Dax qui se réunissent de manière hebdomadaire ou bi-hebdomadaire. Voilà.
Quand même, ils ont un bon rythme de rencontre.
Oui, ils sont fidèles, ils sont réguliers.
Ils continuent à animer les messes ou pas?
Ah oui, j'ai oublié un truc, mais que je n'ai pas encore, à part amicalement, je n'ai pas eu de contact officiel. Enfin, s'ils sont passés dans l'événement Choisis ta vie, c'est-à-dire qu'il y a l'école de louanges qui a été montée par mon collègue de la communication au diocèse, qui s'appelle Olivier François, et son école de louanges qui s'adresse à tous, mais qui est en fait composée de beaucoup de jeunes, et est une formidable. École d'évangélisation, en fait, enfin une méthode d'évangélisation, c'est-à-dire que par la louange, par le beau, enfin on sait que Dieu est dans la louange, hein, c'est dans les psaumes, c'est dans l'écriture, entraîner les gens à louer Dieu, c'est rendre Dieu présent. Enfin, louer Dieu, c'est rendre Dieu présent. Et donc cette école de louange est une grande œuvre d'évangélisation, et en plus, comme elle produit du beau, les gens peuvent être attirés, je pense qu'on est toujours attiré par le beau pour aller vers Dieu. Et cette école de louange permet de former des compétences pour animer des messes dans le territoire. Donc je le mentionne, même si c'est pas du tout dans mon. Je peux, parce que, en fait, je le mentionne parce que je fais appel à eux pour les événements. Pour projet, pour idée, j'aimerais proposer des méthodes, des processus, alors toujours relationnels le plus petit possible. Pour que les animateurs d'aumônerie localement qui ont besoin de soutien spirituel et humain dans leur entourage puissent se soutenir. Donc j'ai déjà des idées, je vais leur en parler quand on les réunira le 11 janvier. Je voudrais aussi proposer pour les jeunes, ceux à peu près de mon âge et ceux du bureau, les bénévoles du bureau, je voudrais leur proposer aussi des petites formations sur la base de ce que moi j'ai reçu sur l'Église en croissance, donc sur la formation des disciples missionnaires, sur l'évangélisation intégrale, pour savoir que, pour se rendre compte que chaque baptisé a en lui-même tout l'ADN de l'Église. Comme chaque cellule a tout l'ADN du corps entier, chaque baptisé a tout l'ADN de l'Église entière. Et de ce fait, chaque baptisé est une semence pour produire du fruit, pour faire d'autres chrétiens. Et voilà, c'est dans cette optique.
Alors, au revoir Martin, et à une prochaine occasion, j'espère.
Merci.
est passé tant de fois. Les images dans ma tête de la première fois, du premier tête à tête. Quels seraient tes mots, toucheraient-ils mon cœur? Quels seraient mes gestes pour apaiser tes peurs? Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière à rallumer le soleil. Accroché à ma terre, je cherche la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments. Que fais-tu chaque soir? Aimes-tu rêvasser? Que fais-tu chaque matin? Plutôt thé ou café? Tu vois, je pense à toi et j'ai dressé la liste de tous les beaux endroits que j'aimerais qu'on visite. Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière. J'ai trouvé la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent, mais des montagnes de sentiments. Accroché à ma terre, les yeux levés vers le ciel, je cherche la lumière à rallumer le soleil. Accroché à ma terre, j'ai trouvé la lumière. Je te promets pas l'or et l'argent.